Monsieur Yves Ponga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Mais tout d'abord, voudriez-vous nous dire pourquoi vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années?
Je suis venu en politique parce que j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Vous savez, on a grandi ici, on est né ici. Nous avons vu la même ville et les mêmes villes du Congo. Ça veut dire que le Congo a stagné et est le même. Je me pose la question pour savoir, mais ceux qui nous dirigent et qui voyagent, ne voient-ils pas d'autres pays? Comment les pays les plus pauvres au monde, qui n'ont même pas d'eau, arrivent à se développer et pas nous? Et j'ai compris que ces deux problèmes étaient politiques. Le problème était politique parce que les politiciens se sont accaparés du pouvoir. Ils se sont dit, voilà, nous sommes les maîtres du Congo. Et le Congolais n'a pas droit à une vie meilleure. Que le Congolais doit vivre en espérant du ciel au lieu d'espérer vers ses dirigeants. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas venir pour faire la différence? Et voilà, M. Yves, dans la course vers les présidentielles.
La RDC fait face aux problèmes de sécurité, milices et groupes armés sont toujours actifs dans plusieurs provinces de l'Est du pays. Si vous êtes élu, comment allez-vous vous y prendre?
Je veux vous dire, je vais être sincère avec vous et sincère avec tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. En RDC, ce n'est pas un problème de guerre de frontières. La RDC a toujours été convoitée par nos voisins et par les grandes puissances internationales. La guerre, c'est la guerre, nous disons, la guerre des minéraux, la guerre de ce que nous avons comme ressources. Le potentiel congolais est en train d'attirer vers nous plus de 140 groupes rebelles. Alors, la guerre, pour la terminer, il faudrait qu'il y ait des négociations de qu'on appelle des affaires. Demandez à ces gens, pourquoi faites-vous la guerre? C'est parce que vous voulez du coltan? Écoutez, voilà, maintenant légalement, si le coltan coûte $100 le kilo, les rebelles vous en donnent à $60, nous on vous donne à $30. Alors, l'État qui n'a rien vu verra maintenant sur ses recettes et la politique gagnant-gagnant. Et nos populations vivront en paix.
Plusieurs épidémies jadis éradiquées sont aussi permanentes aujourd'hui en RDC ces dernières années, dont le choléra et aujourd'hui c'est aussi le virus Ebola. Quelle place vont occuper les questions de santé dans les priorités de votre gouvernement de demain si vous êtes élu?
La politique de santé a toujours été notre lutte. Et un gouvernement, dire que il ne veut pas l'ingérence de l'étranger dans les élections, dans tout ce que voit l'étranger, ne peut pas venir. Mais lorsque nous avons Ebola, le choléra, c'est l'étranger qui vient avec les ONG, il vient avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On se pose la question. Ça veut dire qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ebola ou le choléra, ça veut dire qu'il y a un problème sanitaire. Ah, pourquoi le gouvernement, pour éradiquer le choléra, n'a rien fait? Qu'est-ce que fait le gouvernement pour qu'il y ait une ville et des villes saines dans toute la République du Congo?
Et qu'est-ce que vous proposez pour en sortir?
La santé, avec la grandeur du Congo, devait avoir un budget minimum de $3 milliards pour résoudre le problème de la santé. Il faudrait qu'il y ait des mutuelles. Tout Congolais doit avoir cotisé quelque part dans des mutuelles de santé. $20, $10 pour la famille. Nous allons voir se développer des banques de crédit. Nous allons voir développer des institutions financières en RDC qui vont supporter la santé. Nous allons maintenant investir dans les hôpitaux, dans les centres de santé, partout. Et nous avons prévu un budget pour gérer à partir des urgences. Nous allons doter à l'État tous les outils nécessaires pour qu'il puisse prendre soin de la santé du Congolais. Parce que nous voulons un pays grand. Mais lorsque le peuple est malade, on n'aura plus un bon rendement dans les entreprises. Alors l'État va en perdre. C'est ça notre priorité. Ça veut dire que la santé occupera le centre de notre programme gouvernemental.
Autre question, l'éducation, c'est également du social. La qualité de l'enseignement congolais ne cesse de baisser. Les enseignants, toujours pas satisfaits de leur rémunération. Avez-vous un plan pour réduire ou refaire la qualité de nos écoles et nos universités?
Et voilà, nos écoles et nos universités ont un problème. Je vous dis que gérer la santé, comme on vient de parler, et l'éducation, tout cela part de la carte d'identité biométrique. Nous devons savoir, lorsqu'un enfant naît, la santé et l'éducation vont de pair, parce que lorsqu'un enfant naît, déjà, l'État doit prendre avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et le ministère du territoire doit prendre santé une carte d'identité, répertorier l'enfant, l'enregistrer dans la base de données centrale du gouvernement, afin de savoir connaître son parcours. L'enfant a une carte d'identité. Quand l'enfant arrive à 6 ans, doit aller en première année, déjà avec le système de la carte d'identité, nous pouvons répertorier, savoir le milieu, parce que nous allons gérer aussi les mouvements migratoires. Voilà, nous sommes à Kinshasa, l'enfant habite à Matete. Combien d'écoles, déjà le système déjà de l'État, saura combien d'écoles avons-nous à Matete, dans chaque quartier, si c'est Ngilima, Tomba, Mongo, Kinshasa, tout ça, Pouloulou, déjà nous savons et nous allons créer des écoles en fonction. On arrive maintenant en 6e année secondaire, plus question d'examen de l'État. Lorsque l'enfant arrive à l'université, l'enfant a eu 80% ou 70%, mais ne sait pas écrire, ne sait pas lire. C'est un problème. Un enfant qui a eu 80% à l'école aura 50% à la main d'État. Ça veut dire que le bulletin de l'école, dès la mai 2020, valera pour entrer à l'université. L'abolition des amis d'État. L'État maintenant aura, les inspecteurs auront la tâche d'avoir un système pour contrôler les matières, le cursus de son enfant jusqu'à l'université. Nous disons ceci. Que le Congo ne mérite pas ça. Nous devons gérer notre pays.
Une autre question, le développement économique de la RDC ne reflète pas la diversité de richesses du pays sur le plan minier, forestier, hydrographique, même démographique. Avez-vous un plan pour amorcer le développement de notre pays,
la RDC? Bien sûr, nous avons conçu un système qu'on appelle le CDT.
C'est-à-dire?
C'est un concept de développement en triangle. Un concept pour développer le pays en triangle. C'est pour dire que nous allons construire 20 000 kilomètres en 5 ans de chemin de fer. Ça veut dire que le 20 000 kilomètres de chemin de fer est un investissement de 10 milliards de dollars. Lorsque le chemin de fer va passer de Lubumbashi, Ilebo Kinshasa, le Grand Katanga, déjà le chemin de fer ne passe pas seul. Il passe avec l'électricité, avec l'eau et l'internet, la fibre optique. Déjà tous les villages qui aux alentours, dans ce tronçon, dans les parcours de Grand Katanga à Kinshasa, déjà auront la lumière, auront l'eau, l'électricité, l'internet. Et nous allons créer aussi l'office des ponts. Vous savez combien d'eau des rivières que nous avons ici? Il n'y a pas d'office. Nous avons parlé d'office des routes. Moi, je parle aussi d'office des ponts. Ça veut dire que nos villages auront deux banques. Il n'y aura plus l'exode rural. Auront des banques déjà parce qu'il y a l'internet, il y a l'électricité. Auront des banques. Nous allons bancariser l'économie, payer le salaire. Alors les gens vont maintenant cultiver. En cultivant maintenant, il y a le train pour amener les produits dans tous les quatre coins du Congo. C'est ça le système de développement.
Et la route?
Et la route, bien sûr, ça va. Les chemins de fer, route, l'électricité, l'eau et l'internet. Vous savez pourquoi est-ce que le gouvernement en 17 ans n'a pas donné les cartes d'identité et l'internet? Parce qu'il savait, pendant les élections, si on avait l'internet partout, dans tous les quatre coins, le peuple aura su, connu, c'est la mécession qui a été appliquée pendant 17 années. Alors là, c'est ça le grand problème. Ils savent qu'ils sont mal gérés, ils ne veulent pas que les quatre coins puissent avoir. Voilà pourquoi ils amènent 1000 francs et disent au peuple de vendre leurs 5 années d'existence pour 1000 francs, alors qu'ils pouvaient faire mieux.
Okay, une dernière question. En une minute, quel message adressez-vous à ceux qui vont voter pour vous?
Chers Congolais, le grand message, c'est celui-ci. On vous a dit que le Congo n'a pas d'argent. On vous a dit, quand nous parlons de développement, que le Congo n'a pas. D'où viendra l'argent? Mais il y a des pays pauvres, l'Éthiopie, il y a des pays qui n'ont aucune ressource, se développent, ont des métros, ont des trains. Moi, je dis ceci. Quand vous allez voter Yves Ponga, vous votez pour le développement. Vous votez pour que le Congolais puisse avoir une identité, carte d'identité. Vous votez pour que nos professeurs, nos maîtres puissent avoir des salaires décents. Nous, on se pose la question, dans quel pays au monde le parlementaire a un salaire plus élevé qu'un professeur? C'est pour cela que vous voyez, tout le monde veut être député. C'est à cause du salaire. Nous allons en renverser tout ce système. Avant de voter pour moi, pensez à une chose. prier Dieu pour qu'il puisse vous dire si ce que je suis en train de dire est sincère. Et mon cœur me dit ceci, dans quelques jours, le Congo sera délivré du régime de 17 années et de son opposition qu'il a soutenu et qu'il a maintenu au pouvoir. Nous disons Dieu au centre du développement du Congo.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.